Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce jeune homme s'en va tout triste. Il n'a pas pu suivre le Christ. Sans doute, il l'aurait voulu, d'où sa tristesse. Mais il n'en a pas été capable. Pourquoi ? C'est qu'il est riche. Il veut même tout acheter, d'une certaine façon, jusqu'à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la richesse en soi n'est pas un obstacle. Bien d'autres étaient riches dans l'Évangile et ont suivi le Christ. Pensons à Matthieu Lévi, le collecteur d'impôts. Lui, il devient apôtre, il devient évangéliste. Et on sait bien que les publicains étaient réputés pour en demander toujours un peu plus à leurs contribuables et pour se faire une petite fortune au soleil. Cependant, le Christ arrive, Matthieu est en train de compter ses sous, Jésus lui dit « Suis-moi » et aussitôt Matthieu le suit. La richesse ne l'a pas retenu. Pourquoi donc notre jeune homme aujourd'hui se trouve comme paralysé quand Jésus lui parle ? C'est qu'en réalité, s'il lâche ses richesses, il n'a absolument rien à mettre à la place. Il est comme devant un grand vide. Il entre dans une espèce de panique. Il est incapable de comprendre que Jésus peut occuper cette place dans son cœur qui, pour le moment, est occupée par la richesse. Pour lui, Jésus, c'est vrai, est un bon maître de morale, un bon rabbi très estimable. Mais il ne saura pas, en tout cas aujourd'hui, le bien de son cœur. À la place de son cœur restera son portefeuille et non le visage du Seigneur. C'est qu'il nous montre, ce jeune homme, que parfois, ce sont les richesses qui nous possèdent. C'est là qu'entre dans le cœur comme une sorte de vice, l'amour de l'argent. Et le cœur devient semblable à ce qu'il aime, incapable de goûter autre chose que les biens de la terre, les biens finis, les biens de ce temps. Ce jeune homme, d'une certaine façon, il a perdu, ou il n'a jamais eu, le sens de Dieu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il a perdu ce sens de Dieu comme d'autres perdent le sens de la vue, le sens de l'ouïe. Pour le dire d'une autre façon, ce jeune homme a tué, par son attachement, a tué en lui quelque chose d'important. Il a tué l'espérance, c'est-à-dire cette capacité d'être heureux d'un autre bonheur que celui de la terre. Il y a un personnage de Platon qui, trop attaché au bien de la terre, se transforme en arbre, qui pousse ses racines dans le sol et qui devient incapable d'avancer, de se déplacer. Tel est notre jeune homme aujourd'hui. Il ne fait plus qu'un avec la terre. Et frères et sœurs, cela est d'une terrible actualité. Comment tuer l'espérance dans un pays, dans une civilisation, en y infusant cet amour de l'argent, cet amour de ses aises, en se laissant gagner par l'esprit de consommation? Tel est le cas de notre Occident. Tant de jeunes et d'enfants dont la chambre n'est plus assez grande pour contenir leurs jouets ou les cadeaux reçus. Tant de choses dont aussitôt on se lasse une fois qu'on les a essayées. Et tant de tristesse aussi. Par contre, quiconque a voyagé un tant soit peu en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, où ne se vit pas simplement parfois la misère, mais aussi une vraie pauvreté pleine de sagesse, quiconque a fait de tels voyages est à jamais marqué par des sourires, notamment ceux des enfants, que jamais ou très rarement il retrouvera dans des pays plus riches. Oui, frères et sœurs, la joie de l'Occident agonise sous sa richesse et nous sommes tous fils de notre civilisation. Il nous faut donc la récupérer, cette joie de l'espérance, cette capacité de nous réjouir d'un bonheur de l'autre monde, d'un bonheur qui vient de Dieu, d'un bonheur qui ne plonge pas ses racines dans le visible et l'immédiat. Et pour cela, il faut accepter qu'il y ait un espace parfois un peu désagréable et douloureux, mais un espace entre nos désirs et leur satisfaction, un espace qui permet que se développe en nous une vraie spiritualité. Il faut entrer dans un esprit de détachement. Coupez-vous toujours de quelque chose, nous disait notre fondateur, le Père Lamy. Il faut avoir le courage de regarder en nous cette pente à posséder, à jouir de l'immédiat. Le courage de différer peut-être tel achat superflu, de se séparer aussi de ce qui n'est pas utile, vivre d'une certaine sobriété, d'accord avec notre état de vie. Quand j'étais enfant, à chaque Noël, mes parents nous proposaient de donner à une association le plus beau jouet, un jouet en tout cas que nous aimions, pour les enfants qui n'avaient rien à Noël. Ces petits exercices de libération du cœur, ne les réservons pas simplement aux enfants. Regardons nos placards, dans nos maisons, ce qui n'est pas indispensable, et allégeons-nous. Pensons aussi à la course en avant pour les moyens de communication et mettons un point d'arrêt à un processus que nous ne maîtrisons pas. La fièvre consumériste qui se déguise toujours de mille et un prétextes. La joie est à ce prix, la joie profonde, la joie qui transfigure. Et cela aussi pour les maisons religieuses. La grande Sainte Thérèse d'Avila, à la suite de certains accommodements de ces couvents, certaines facilités de confort qui s'étaient introduites, disaient « dépité, on nous vole notre chère pauvreté ». Et on pourrait rajouter « on nous vole là notre joie ». Chers frères, le détachement ne suffit pas. Parce que nous n'avons pas à être simplement des ascètes austères et pleins de leur détachement. Ce serait une façon d'être riche non plus de sa richesse, mais de notre détachement. Non, c'est la présence de la vie éternelle au cœur de nos vies, c'est-à-dire la grâce, qui détache notre cœur et qui le tourne vers Dieu. Ce que nomme sagesse et intelligence la première lecture. Voilà pourquoi il faut supplier que nous soit donnée cette sagesse, comme Salomon l'a fait. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Intelligence qui nous donne de voir immédiatement toute chose dans une perspective d'éternité. Cet esprit de sagesse, cette grâce, c'est Dieu qui s'introduit dans notre cœur. C'est Dieu qui devient notre bien le plus intime. Alors, de ce bien infini, bien sûr, tout est remis à sa place. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la sagesse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Frères et sœurs, voilà l'effet de la grâce en nous. Voilà pourquoi il faut supplier qu'elle nous soit donnée. Voilà ce qui nous permet de nous réjouir de Dieu. C'est la prière qui nous permettra cela, de retrouver la saveur de Dieu. Par la prière, nous entrons dans son monde. Et nous sommes comblés, comme par anticipation, des joies qu'un jour nous goûterons dans l'éternité. Paul VI disait cette phrase magnifique aux chrétiens : « Les chrétiens doivent habiter le présent comme s'ils revenaient de l'avenir, c'est-à-dire cet avenir qui nous donnera la plénitude des biens du ciel, l'absolue satisfaction de nos désirs les plus profonds et les plus légitimes, mais surtout, cette amitié avec Dieu qui nous comblera tout entier. Pensez au ciel, cela aussi libère notre cœur. » Une dernière chose. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à nous détacher, qui nous aide à dire « ça, ça t'encombre. Telle possession, elle te paralyse. Mais cela peut être autre chose, bien sûr, que des biens matériels. Tel désir d'avoir toujours raison, telle volonté de briller, tel plaisir auquel tu renonces que difficilement et qui te freine. Tout cela t'empêche de suivre le Christ. Il nous faut donc un regard bon et lucide qui se pose sur nous pour faire le ménage en nous-mêmes. C'est le regard même de Jésus sur le jeune homme riche. Il le regarde, il l'aime, et en même temps il lui dit « Une seule chose te manque ». Il a saisi tout de suite son défaut. Laissons donc ce regard de Jésus se poser sur nous. Et comment le fait-il ? Il le fait par sa parole. Sa parole qui est Jésus lui-même, vivante, énergique et coupante, comme dit la deuxième lecture, comme Jésus, d'une certaine façon, a pu l'être avec bonté et douceur, a pu l'être avec ce jeune homme riche. Car cette parole pénètre au plus profond de l'âme, et Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Cette parole, frères et sœurs, elle est ce grand instrument de discernement. C'est elle qui nous lit, qui nous déchiffre, comme on déchiffre parfois un parchemin difficile, parce que notre cœur est compliqué et malade. Elle est cette grande force de purification. Vous êtes pur grâce à la parole que je vous ai dite. Chers frères et sœurs, fréquentons-la assidûment. Ayons l'habitude chaque jour de retenir ne serait-ce que quelques mots qui nous habiteront, qui nous donneront quelque chose de l'autre monde et qui nous détacheront de la terre. Elle nous montrera là où nous devons céder. Elle nous consacrera à Dieu. Alors, nous deviendrons son bien. La vie éternelle finira par nous posséder et nous envahir. Demandons tout cela à la Vierge Marie, la Toute Sainte.